Chapitre 4.
Winston promena son regard dans la petite chambre miteuse au-dessus du magasin de Mr. Charrington. À côté de la fenêtre, l'énorme lit était fait, avec des couvertures dépenaillées et un traversin dépourvu de taie. L'horloge démodée, avec son cadran de 12 heures, faisait tic-tac sur le manteau de la cheminée. Dans un coin, sur la table pliante, le presse-papier de verre qu'il avait acheté lors de sa dernière visite luisait faiblement dans la pénombre. Sur le rebord de la cheminée, il y avait un vieux poêle à pétrole, une casserole et deux tasses fournies par Mr. Charrington. Winston alluma le brûleur et mit à bouillir de l'eau. Il avait acheté une enveloppe pleine de café de la Victoire et quelques tablettes de saccharine. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 17:20. Il était 19:20 en réalité. Elle devait venir à 19:30. Folie, folie, ne cessait de lui répéter son cœur. Folie consciente, gratuite et suicidaire. De tous les crimes que pouvait commettre un membre du parti, celui-là était le plus difficile à dissimuler. En vérité, cette idée avait d'abord germé dans son esprit comme une vision, le presse-papier de verre se reflétant sur la surface de la table à rallonge. Comme il s'en était douté, Mr. Charrington n'avait fait aucune difficulté pour lui laisser la chambre. Il était visiblement heureux des quelques dollars que cela allait lui rapporter. Il ne sembla pas non plus choqué et ne montra pas de connivence déplacée quand il devint clair que Winston ne voulait la chambre pour une histoire d'amour. Au contraire, son regard devint vague et il ne parla que de généralité, d'un air si délicat qu'il donnait l'impression d'être devenu en partie invisible. L'intimité, dit-il, était quelque chose de précieux. Tout le monde voulait un endroit où être seul de temps en temps. Et quand vous trouviez un tel endroit, la moindre des courtoisies pour quiconque le connaissait également était de garder pour soi ce qu'il en savait. Il ajouta même, en donnant presque l'impression de disparaître, qu'il y avait deux entrées à la maison, l'une d'elles par la cour de derrière et donnant sur une allée. Sous la fenêtre, quelqu'un chantait. Winston regarda, dissimulé derrière le rideau de mousseline. Le soleil de juin était encore haut dans le ciel, et dans la cour en dessous, éclatante de soleil, une femme, monstrueuse et massive, avec des bras rouges et musclés, un tablier en toile noué autour de la taille, allait et venait, d'un pas lourd, entre un baquet et une corde à linge, accrochant une série de petites choses blanches dans lesquelles Winston reconnut des couches de bébé. Chaque fois que sa bouche n'était pas occupée par des pinces à linge, elle chantait, d'une voix puissante de contralto. C'était juste un rêve sans espoir qui est passé comme un jour d'avril. Un regard et un mot ont brisé mes rêves, ont emporté mon cœur. On entendait cet air-là partout dans Londres depuis des semaines. C'était l'une de ces innombrables chansons publiées pour les prolétaires par une sous-section du département de la musique. Les mots de ces chansons étaient composés sans la moindre intervention humaine, par un instrument appelé le versificateur. Mais la femme chantait tellement juste qu'elle pouvait transformer la pire soupe en un son presque plaisant. Winston pouvait entendre le chant de la femme, le raclement de ses chaussures sur le dallage et les cris des enfants dans la rue, et quelque part au loin, le léger ronronnement du trafic. Et pourtant la chambre semblait curieusement silencieuse grâce à l'absence des crantelles. Folie, 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 pensa-t-il à nouveau. Il était inconcevable qu'il fréquente cet endroit pendant plus de quelques semaines sans être pris. Mais la tentation d'avoir une cachette qui fût vraiment à eux, tout près et en intérieur, avait été trop forte pour tous les deux. Pendant un certain temps après leur rendez-vous dans le clocher de l'église, il avait été impossible d'organiser une rencontre. Les temps de travail avaient été considérablement augmentés en prévision de la semaine de la haine. C'était dans plus d'un mois, mais les préparatifs importants et complexes qui étaient nécessaires donnaient du travail supplémentaire à tout le monde. Finalement, tous deux réussirent à réserver un après-midi libre le même jour. Ils s'étaient mis d'accord pour retourner à la clairière dans les bois. Le soir précédent, ils se rencontrèrent brièvement dans la rue. Comme toujours, Winston regardait à peine Julia tandis qu'ils se dirigeaient l'un vers l'autre dans la foule. Mais le bref coup d'œil qu'il lui lança lui révéla qu'elle était plus pâle que d'habitude. « C'est fichu, » murmura-t-elle, dès qu'elle jugea sans danger de parler. « Pour demain, je veux dire. »«
Quoi ? »
Demain après-midi, je ne peux pas venir.
Et pourquoi ?
Oh, la raison habituelle. C'est arrivé plus tôt cette fois-ci. Pendant un instant, il fut très en colère. Depuis un mois qu'il la connaissait, la nature de son désir pour elle avait changé. Au début, il y avait eu peu de vraie sensualité. La première fois qu'ils avaient fait l'amour, ça avait été un pur acte de volonté. Mais après la deuxième fois, ce fut différent. L'odeur de ses cheveux, le goût de sa bouche, le contact de sa peau semblaient avoir pénétré Winston ou l'air autour de lui. Elle était devenue une nécessité physique, une chose que non seulement il voulait, mais aussi à laquelle il sentait qu'il avait droit. Quand elle lui dit qu'elle ne pouvait pas venir, il eut l'impression qu'elle lui mentait. Mais juste à ce moment, ils furent pressés par la foule et leurs mains se rencontrèrent accidentellement. Elle saisit furtivement le bout de ses doigts, d'un geste qui invitait non au désir, mais à l'affection. Il fut frappé de l'idée que quand on vivait avec une femme, cette déception en particulier devait être un événement normal, récurrent, et il fut soudain gagné par une profonde tendresse telle qu'il n'en avait jamais éprouvée pour elle auparavant. Il aurait voulu qu'ils fussent un couple marié depuis 10 ans. Il aurait aimé marcher avec elle dans la rue, comme il le faisait maintenant, mais ouvertement et sans crainte, parlant de banalité et achetant ceci ou cela pour la maison. Il aurait aimé par-dessus tout qu'ils aient un endroit où ils pourraient être seuls ensemble, sans se sentir obligés de faire l'amour à chaque fois qu'ils se rencontraient. Ce ne fut pas vraiment à ce moment, mais au cours du jour suivant, que l'idée de louer la chambre de Mr. Charrington lui était venue. Tous les deux savaient que c'était de la démence, c'était comme s'ils se rapprochaient volontairement de leur tombe. Tandis qu'il était assis sur le bord du lit, il pensa à nouveau aux caves du ministère de l'amour. Il était curieux de constater comment cette prédestination fatale pouvait entrer et ressortir de sa conscience. C'était là, fixé dans le futur, précédant la mort aussi certainement que 99 précédait 100. On ne pouvait pas l'éviter. Mais on pouvait peut-être en repousser l'échéance. Et pourtant, au contraire, de temps en temps, par un acte conscient, volontaire, on choisissait de réduire l'intervalle de temps qui nous en séparait. Au même moment, il y eut un bruit de pas rapide dans les escaliers. Julia surgit dans la pièce. Elle portait une sacoche à outils en grosse toile brune, comme il l'avait déjà vu emporter ici ou là au ministère. Il s'élança pour la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea promptement parce qu'elle portait encore la sacoche. « Une seconde, dit-elle. Laisse-moi seulement te montrer ce que j'ai apporté. Est-ce que tu as amené de cette saleté de café de la Victoire ? J'en étais sûre. Tu peux le balancer parce que nous n'en aurons pas besoin. Regarde. » Elle se mit à genoux, ouvrit le sac, en sortit en vrac quelques clés et un tournevis qui se trouvaient sur le dessus. En dessous, il y avait plusieurs sacs en papier bien emballés. Le premier paquet qu'elle passa à Winston lui provoqua une sensation étrange et pourtant vaguement familière. Il était rempli d'une substance lourde, ressemblant à du sable, qui s'enfonçait sous le doigt.
« Ce n'est pas du sucre ? »
demanda-t-il. « Du vrai sucre, pas de la saccharine, du sucre. Et voici un morceau de pain, du beau pain blanc, pas notre saloperie, et un petit pot de confiture. Et là, une boîte de lait. Mais regarde, c'est de ça que je suis vraiment fière. J'ai dû enrouler un bout de toile autour parce que... » Mais elle n'avait pas besoin de lui dire pourquoi elle l'avait enveloppé. L'odeur emplissait déjà la pièce, une odeur riche et chaude, qui semblait une émanation de la petite enfance de Winston, mais que l'on rencontrait encore à l'occasion, même maintenant, emplissant un passage avant qu'une porte ne claque, ou se diffusant mystérieusement dans une rue bondée, respirée un instant puis aussitôt perdue.
« C'est du café, »
murmura-t-il.
« Du vrai café. »
« Du café du cercle intérieur du parti. Il y en a à peu près 1 kilo, » dit-elle.
« Comment as-tu réussi à te procurer toutes ces choses ?»«
Tout ça vient du cercle intérieur. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ces salauds-là, tout. Mais bien sûr, les garçons et les serviteurs piquent des choses et... Regarde, j'ai aussi un petit paquet de thé. » Winston s'était accroupi à côté d'elle. Il déchira un coin du paquet.
« C'est du vrai thé, pas des feuilles de mûrier. »
« Il y a eu pas mal de thé ces derniers temps. Ils ont mis la main sur l'Inde ou quelque chose comme ça, » dit-elle vaguement. « Mais écoute, chérie, je veux que tu te retournes 3 minutes. » « Va t'asseoir de l'autre côté du lit, ne t'approche pas trop de la fenêtre, et ne te retourne pas avant que je te le dise. » Winston regarda distraitement à travers le rideau de mousseline. En bas dans la cour, la femme au bras rouge allait et venait toujours entre le baquet et la corde à linge. Elle enleva 2 pinces de sa bouche et chanta, pleine d'émotion.
«
Ils disent que le temps guérit tout, ils disent qu'on peut toujours oublier, mais les sourires et les larmes, malgré les années, font toujours vibrer les cordes de mon cœur.
Elle semblait connaître par cœur toutes ces niaiseries. Sa voix montait dans la douceur de l'air d'été, très mélodieuse et chargée d'une sorte de mélancolie heureuse. On avait l'impression qu'elle aurait été parfaitement heureuse si cette soirée de juin ne s'arrêtait jamais, et si le stock de linge avait été inépuisable, de rester là pendant 1000 ans à accrocher des couches et à chanter des âneries. Il fut frappé de penser que, curieusement, il n'avait jamais entendu un membre du parti chanter seul et spontanément. Cela aurait semblé un peu hétérodoxe, une dangereuse excentricité, comme se parler à soi-même. Peut-être n'était-ce que lorsqu'ils étaient proches de la famine que les gens avaient quelque chose à chanter. « Tu peux te retourner maintenant, » dit Julia. Il se retourna, et pendant une seconde, il eut peine à la reconnaître. En fait, il s'était attendu à la voir nue. Mais elle n'était pas nue. La transformation était encore bien plus surprenante. Elle s'était peint le visage. Elle devait s'être glissée dans quelques magasins des quartiers prolétaires et s'être acheté un nécessaire de maquillage complet. Ses lèvres étaient très rouges, ses joues fardées, son nez poudré. Il y avait même une touche de quelque chose sous ses yeux pour les rendre plus brillants. Ce n'était pas très bien fait, mais les standards de Winston en la matière n'étaient pas bien hauts. Jusque-là, il n'avait jamais vu, ni même imaginé, une femme du parti avec des cosmétiques sur le visage. L'effet sur son apparence était saisissant. Avec juste quelques petites touches de couleur au bon endroit, elle était devenue non seulement beaucoup plus jolie, mais surtout beaucoup plus féminine. Ses cheveux courts et son bleu de travail ne faisaient que renforcer cet effet. Quand il la prit dans ses bras, un effluve de violette synthétique lui vint aux narines. Il se souvint de la pénombre dans une cuisine en sous-sol et de la bouche caverneuse d'une femme. Elle avait utilisé le même parfum. Mais à ce moment, cela ne semblait pas avoir d'importance.
« Du parfum aussi !»
dit-il. « Oui, mon chéri, du parfum aussi. Et tu sais ce que je vais faire ensuite ? Je vais trouver quelque part des vrais vêtements de femme, et je vais les porter à la place de ces saletés de pantalons. Je porterai des bas de soie et des chaussures à talons hauts. Dans cette chambre, je serai une femme, pas une camarade du parti. » Ils enlevèrent leurs vêtements et grimpèrent sur l'imposant lit d'acajou. C'était la première fois qu'ils se déshabillaient en sa présence. Jusque-là, il avait eu trop honte de son corps maigre et pâle, et des veines variqueuses sur son mollet, et de la tache décolorée au-dessus de sa cheville. Il n'y avait pas de drap, mais la couverture sur laquelle ils étaient étendus était usée et douce. La taille et l'élasticité du lit les surprirent tous deux. « Il est sûrement plein de vermine, mais peu importe, » dit Julia. On ne voyait plus de lit double, sauf chez les prolétaires. Winston avait eu l'occasion de dormir dans un lit double quand il était enfant, mais pas Julia, autant qu'elle put se souvenir. Ils s'endormirent pendant un petit moment. Quand Winston se réveilla, les aiguilles de l'horloge indiquaient presque 9:00. Il ne bougea pas, car Julia dormait la tête dans le creux de son bras. L'essentiel du maquillage s'était étalé sur Winston ou sur le traversin, mais une légère teinte rouge soulignait encore la beauté de sa pommette. Le soleil couchant éclaira d'un rayon jaune le pied du lit, ainsi que l'âtre où l'eau bouillait dans la casserole. Dans la cour en bas, la femme avait arrêté de chanter, mais de lointains cris d'enfant flottaient encore dans l'air de la rue. Il se demanda vaguement si, dans le passé aboli, ça avait été une expérience normale de rester étendu ainsi dans un lit, dans la fraîcheur d'une soirée d'été, un homme et une femme sans aucun vêtement, faisant l'amour quand ils en avaient envie, discutant de ce qu'ils voulaient, sans ressentir aucune obligation de se lever, juste étendu comme cela, à écouter les sons paisibles qui venaient de l'extérieur. Certainement, il n'avait pas pu exister un temps où tout cela semblait naturel. Julia s'éveilla, se frotta les yeux et se redressa sur son coude afin de regarder le poêle à pétrole. « La moitié de l'eau s'est évaporée, dit-elle. Je vais me lever et faire du café dans un moment. Nous avons 1 heure. À quelle heure coupe-t-il la lumière chez toi ?»«
23:30. »«
C'est 23 à l'hôtel. Mais tu dois rentrer avant ça parce que... »« Hi, dégage, sale bête !» Elle se pencha soudain par-dessus le lit, ramassa une chaussure et l'envoya dans le coin de la pièce d'un geste puéril, comme il l'avait vu lancer le dictionnaire sur Goldstein ce matin-là pendant les 2 minutes de la haine.
« Qu'est-ce que c'était ? »
dit-il surpris. « Un rat ! Je l'ai vu passer son sale petit nez à travers le lambris. Il y a un trou là-bas. Je lui ai bien fichu la trouille, en tout cas.
« Des rats !»
murmura Winston.
« Dans cette pièce !»«
Il y en a partout ici !» dit Julia, indifférente, tandis qu'elle se recouchait. « On en a même dans la cuisine du foyer. Certaines parties de Londres en sont envahies. Sais-tu qu'ils attaquent les enfants ?»« Mais oui, dans certaines de ces rues, une femme ne doit pas laisser son bébé seul 2 minutes. Ce sont ces gros rats bruns qui font ça. Et le pire, c'est que ces brutes-là font toujours... »«
Arrête !»
dit Winston, qui fermait les yeux avec force. « Mon chéri, tu es devenu tout pâle. Qu'y a-t-il? Ils te rendent malade ?»«
De toutes les horreurs du monde, un rat !»
Elle se pressa contre lui et l'entoura de ses bras, comme pour le rassurer avec la chaleur de son corps. Il ne rouvrit pas les yeux immédiatement. Pendant quelques instants, il avait eu le sentiment de s'être retrouvé dans un cauchemar récurrent qu'il avait régulièrement poursuivi tout au long de sa vie. C'était presque toujours la même chose. Il se tenait devant un mur de ténèbres, au-delà duquel se trouvait quelque chose d'insupportable, une chose si terrible qu'on ne pouvait l'affronter. Dans le rêve, il avait toujours l'impression profonde de céder à une illusion, car il savait en fait ce qui se trouvait par-delà le mur de ténèbres. Avec un terrible effort, comme s'il arrachait un morceau de son propre cerveau, il aurait même pu mettre à jour cette chose. À chaque fois, il se réveillait sans avoir découvert de quoi il s'agissait, mais d'une façon ou d'une autre, c'était lié à ce que disait Julia quand il l'avait interrompue.
« Je suis désolé, »
dit-il.
« Ce n'est rien, je n'aime pas les rats, c'est tout. »«
Ne t'en fais pas, mon chéri, ces saletés ne rentreront pas ici. Je boucherai le trou avec un morceau de sac avant de partir. Et la prochaine fois, j'amènerai du plâtre pour refermer ça proprement. » Déjà, cet instant de noire panique était à demi oublié. Un peu honteux de lui-même, il s'assit contre la tête de lit. Julia se leva, enfila son bleu de travail et prépara du café. L'odeur qui sortait de la casserole était si puissante et si excitante qu'ils fermèrent la fenêtre afin que personne ne la remarque et ne se pose des questions. Ce qui était encore meilleur que l'odeur du café, c'était cette texture soyeuse que lui donnait le sucre et que Winston avait presque oublié après des années de saccharine. Avec une main dans la poche et une tartine de confiture dans l'autre, Julia se promenait dans la pièce, regardant négligemment la bibliothèque, cherchant la meilleure façon de réparer la table à rallonge, se laissant tomber sur le fauteuil usé pour voir s'il était confortable et examinant l'absurde pendule à 12 chiffres avec un amusement bienveillant. Elle amena le presse-papier de verre sur le lit pour le regarder en pleine lumière. Il le lui prit des mains, fasciné comme toujours par l'apparence douce du verre évoquant l'eau de pluie. « Qu'est-ce que c'est, à ton avis ?» dit Julia.
« Je ne pense pas que ce soit quelque chose. Je veux dire, je ne pense pas que ça ait une fonction quelconque. C'est un petit morceau d'histoire qu'ils ont oublié de modifier. C'est un message d'il y a 100 ans, si on savait comment le lire. »
« Et cette image là-haut ?» Elle indiquait de la tête la gravure sur le mur opposé. « Est-ce qu'elle a 100 ans aussi ?»«
Plus, 200, je dirais. On ne peut pas savoir. » C'est impossible de découvrir l'âge de quoi que ce soit de nos jours.
Elle se rapprocha pour la regarder. « Voilà où cette sale bête a passé son nez, » dit-elle en tapotant le lambris juste en dessous de l'image. « Quel est cet endroit? Je l'ai déjà vu quelque part. »
« C'est une église, ou tout au moins c'en était une. Saint Clément Danes, elle s'appelait. »
Le fragment musical que lui avait appris Mr. Charrington lui revint en mémoire, et il ajouta à demi nostalgique «
« Orange et piment, » disent les cloches de Saint-Clément.
À sa vive surprise, elle continua. « Tu me dois 3 florins, » disent les cloches de Saint-Martin. « Quand donc serais-je payé, » disent les cloches d'Old Bailey. Je ne me souviens pas de la suite après ça, mais de toute façon je me souviens de la fin. Voici une bougie pour t'éclairer dans ton lit, et voici un hachoir pour te couper la tête. C'était comme 2 pièces s'emboîtant parfaitement, mais il devait y avoir encore un verre après les cloches d'Old Bailey. Peut-être pourrait-on le tirer de la mémoire de Mr. Charrington, s'il était convenablement stimulé.
« Qui t'a appris cela ? »
dit-il. « Mon grand-père. Il me le récitait quand j'étais une petite fille. Il a été vaporisé quand j'avais 8 ans. En tout cas, il a disparu. Je me demande ce que c'était un piment, » ajouta-t-elle en sautant du coq à l'âne. « J'ai vu des oranges. Ce sont des sortes de fruits jaunes et ronds avec une peau épaisse. »
« Je me souviens des piments, »
dit Winston.
Ils étaient assez communs dans les années 50. Ils étaient tellement forts que ça vous agaçait les dents rien qu'à les sentir.
Je suis sûre qu'il y a des scarabées derrière cette image, dit Julia. Je la décrocherai un de ces jours et je la nettoierai un bon coup. Je suppose qu'il est presque l'heure de partir. Je dois commencer à enlever le maquillage. Quelle plaie! J'enlèverai le rouge à lèvres de ton visage après cela. Winston attendit encore quelques minutes avant de se lever. L'obscurité gagnait la pièce. Il se retourna vers la lumière et regarda à travers le presse-papier de verre. Ce qui l'intéressait au plus haut point n'était pas le fragment de corail, mais l'intérieur du verre lui-même. Il y avait en lui une telle profondeur, et pourtant il était aussi transparent que l'air. C'était comme si la surface de verre était l'arc du ciel, renfermant un monde minuscule avec son atmosphère complète. Il avait le sentiment qu'il pourrait y pénétrer, et qu'en réalité il était à l'intérieur, lui, et le lit en acajou, et la table à rallonge, et l'église, et la gravure sur acier, et le presse-papier lui-même. Le presse-papier était la pièce dans laquelle il se trouvait, et le corail était sa propre vie et celle de Julia, fixée dans une sorte d'éternité, au cœur du cristal.